carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue dans ce carrefour des arts. Je vous emmène aujourd'hui au musée Marmottan-Monet à Paris, un ancien pavillon de chasse acquis en 1882 par Jules Marmottan, dont le fils Paul en fait sa demeure et l'agrandit pour y exposer des peintures, des meubles, des bronzes de l'époque napoléonienne qu'il réunit tout au long de sa vie. À sa mort en 1932, il lègue l'endroit à l'Académie des Beaux-Arts, sa bibliothèque, l'ensemble des collections, son hôtel particulier. Et je vous propose de le visiter en compagnie de l'académicien Jacques Tadéhi. Nous sommes aujourd'hui au musée Marmottan. Nous sommes tout d'abord dans ce hall d'entrée qui est très très haut et qui se situe où, sur le plan de la structure du musée?
Alors, c'est bien, vous trouvez que ce hall est haut. Effectivement, il est comme tous les halls des maisons de la fin du 19e siècle, les hôtels particuliers. Alors, il faut savoir que ce bâtiment était d'abord une sorte de pavillon de chasse qui appartenait au duc de Valmy, Kellermann, et que les Marmottan, Jules Marmottan, qui était un industriel, qui avait gagné beaucoup d'argent, enfin, qui, je pense, dans le Nord, avec des mines, avait acheté. Et il a commencé à le transformer en l'agrandissant. Et cette partie où nous sommes maintenant, le hall, est une des premières parties agrandies. Son fils, Paul Marmottan, au contraire de son père, ne s'intéressait pas vraiment, comme on le faisait à la fin du 19e siècle, à la peinture hollandaise, aux meubles de haute époque, et tout ce qui concernait le style éventuellement hollandais qui pouvait déborder sur le grand siècle et pourquoi pas sur du Louis XV et du Louis XVI. Le fils Paul Marmottan, qui lui a très vite trouvé ses marques, non pas dans les mines, mais il a profité de sa fortune, qui était assez intelligent, et s'intéressait lui au consulat, à l'Empire, et tout ce qui touchait à l'époque napoléonienne, la première période napoléonienne. Donc il a acheté beaucoup de meubles, d'objets, de bronze, de tableaux, et que nous allons voir bientôt, tout à l'heure, dans les diverses pièces de cet hôtel particulier. Et il a aménagé cet hôtel particulier. Mais il avait aussi une petite maison de campagne qui est à Boulogne, qui est maintenant en plein centre de Boulogne, près du Parc des Princes, qui est la fondation Marmottan aussi, et qui est la bibliothèque Marmottan. Et dans ce lieu, il avait réuni, il y allait, je crois, tous les jours, il avait réuni énormément de livres, d'objets, d'estampes, mais énormément d'ouvrages sur la période napoléonienne. Il était très féru de cette période. Et cette bibliothèque Marmottan existe toujours. Elle fonctionne en accord avec la ville de Boulogne-Billancourt. Et un jour, il faudra que vous fassiez un article. Nous allons ensemble voir ce lieu qui est aussi très intéressant. Voilà, donc nous pouvons quitter le vestibule et aller peut-être dans les salons, si vous le voulez bien.
Voilà, en terminant sur une petite note descriptive, c'est-à-dire les trois tableaux que l'on trouve en face à nous, au niveau de l'escalier, qui sont trois tableaux très beaux, très majeurs, de l'œuvre de Monet.
Je vous parlais de cet hôtel particulier qui était aménagé donc par Jules et Paul Marmottan. Quand j'ai été nommé élu, puisque j'ai été élu directeur, puisque vous ne savez peut-être pas, mais que pour être directeur, seul un membre de l'Académie des Beaux-Arts, à laquelle j'appartiens, je suis musicien, peut être directeur. Donc après le décès de mon prédécesseur, qui était graveur, M. Granier, il y a eu une petite période de vacances et on m'a demandé si je voulais bien m'intéresser à ce musée. Bon, il est certain que ma carrière comme directeur du Conservatoire de Paris ou directeur de la musique de Radio France, enfin un certain nombre de choses, me prédisposait, plus que certains de mes confrères, à m'occuper d'un équipement. Donc j'ai volontiers accédé à la demande de mes confrères et j'ai été élu donc directeur de ce musée. Mais quand je suis arrivé, je me suis aperçu que ce musée, très beau, était assez peu connu du public parisien. Or, paradoxalement, il est très connu des Japonais, mais pour les impressionnistes, des Américains aussi, mais assez peu du public français. D'abord parce que la signalétique pour venir à ce musée était assez nulle, je dois dire, qui ne permet pas facilement de se repérer quand on arrive à la Muette ou dans les métros, que ce soit le Ranelagh ou Muette. C'est vrai que c'est assez difficile d'arriver au musée sans se perdre. Mais quand je suis arrivé, j'ai regardé un peu comment le musée fonctionnait. Bon, on n'avait pas attendu après moi pour le faire fonctionner, vous vous doutez bien. Il y avait d'éminents confrères à moi qui m'ont précédé, qui avaient très très bien géré ce musée. Mais il était en train de peut-être de prendre une petite maladie de langueur. Enfin, il vivait tranquillement, doucement, enfin, dans une ambiance de province. Et en fait, ce que l'on me demandait de faire, le secrétaire perpétuel et Arnaud Dautrive, qui a d'ailleurs été un de mes prédécesseurs, mais il y a quelques années, comme directeur, ont souhaité que je donne un peu de redonne de la vie de deux manières. D'une part, en redonnant à cet hôtel particulier tout le charme, toute la qualité et les restaurations qui s'imposaient sur le mobilier, les bronzes, les tableaux de l'Empire, mais aussi en donnant à ce lieu, qui n'était pas qu'une maison privée, mais qui était devenu un vrai musée tel que le XXIe siècle doit pouvoir espérer. Bon, il y avait un certain nombre de choses, les conditions de sécurité, les conditions d'accès, les accès aux handicapés, enfin, il y a beaucoup de choses, les éclairages, enfin, beaucoup de choses vraiment avaient besoin d'être sérieusement revues. Et depuis 6 mois, je m'y emploie. Donc, vous avez vu, je vous ai montré des choses que nous faisons. En particulier, bon, depuis cet été, nous avons refait entièrement une boutique. Il y a une boutique nouvelle. Alors, vous avez vu, c'est une grande boutique moderne, spacieuse, où on voit un peu les livres, les objets, enfin, tout ce qui a trait à notre musée et qui est un vrai enchantement pour le public parce qu'on y découvre beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'auparavant, dans le petit local où elle était, on ne risquait pas de voir grand-chose. Alors donc, cette boutique a été faite, mais je me suis attaqué, comme je vous l'ai dit, d'abord à la sécurité, puis au parcours. On a restauré les éclairages. Bon, j'ai changé beaucoup, j'ai refait certaines peintures et on a éclairé les œuvres différemment. Enfin, même pas différemment, elles n'étaient pas éclairées. Alors donc, on a fait des éclairages. Et dans l'entrée, vous voyez effectivement, il y a des panneaux que l'on voit maintenant très bien, qui montre des vues du 19e siècle de certains châteaux. Mais il ne faut pas dévoiler tout ce qui se passe dans ce musée. Mais il faut venir les voir, ces vues. Après, donc, nous entrons dans les rotondes. Il y a 2 rotondes merveilleuses. Une où il y a une pendule qui est probablement la plus belle pendule qui a été faite à la fin du 18e et début du 19e siècle, avec, dans laquelle il y a des très jolies gouaches de Carmontel. Dans l'autre, il y a des vues de Paris. Et quand nous avons quitté ces rotondes, nous entrons dans ce que nous appelons le salon vert, qui peut être considéré comme la salle à manger, parce qu'il y a une superbe table recouverte d'un surtout en bronze doré de Thomir, qui est l'équivalent de ce qu'il y a à Compiègne, à Fontainebleau ou à Malmaison. Alors ça, c'est la première pièce dans laquelle il y a beaucoup de tableaux Empire et de très jolis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez là, à votre droite, il y a un ensemble de tableaux de Boilly qui représentent des personnages. Alors là, nous avons exposé, je crois, 25 ou 30, tous très bien éclairés. On voit les personnes qui vivaient du temps de l'Empire. Bien sûr, on voit le prince Murat, sa femme. Enfin, il y a beaucoup de choses très intéressantes, de très jolis meubles, de Molitor, enfin, un très très beau mobilier. Et quand nous avons fait le tour de cette pièce, nous pouvons passer par un petit antichambre où il y a de très jolies porcelaines et nous arrivons dans un salon plus intime où il y a un joli mobilier, un mobilier très très raffiné, de très jolis bronzes, comme vous pouvez le remarquer. Et au mur, il n'y a pas de tableau Empire, mais il y a des tableaux de Berthe Morisot. Parce que nous avons eu une donation au roi, de tableaux de Berthe Morisot, entre autres, et j'ai souhaité les exposer. Et dans ce salon, ils ont toute leur vie, ils sont au soleil levant. Et c'est vrai que le matin, quand on ouvre le musée, à 11h, quand les premiers visiteurs arrivent, il y a une très jolie lumière dans cette pièce. Quand nous suivons, nous arrivons dans le grand bureau qui pouvait être le bureau de Paul Marmottan, avec ce bureau très impressionnant qui est en acajou et des sièges extraordinaires, des sièges dignes des plus grands musées, des plus grands palais nationaux. Et au mur, il y a des tableaux impressionnistes. Pourquoi des tableaux impressionnistes ? Parce que j'ai trouvé, quand on a la chance d'avoir un certain nombre de Renoir, comme le portrait de Monet et de sa femme par Renoir, ou des portraits de Julie Manet par Renoir, ou des Caillebotte, ou un superbe Gauguin entre les deux fenêtres, bon, qui sont de la fondation Duhem. Donc j'ai souhaité exposer ces tableaux, et vous vous rendez compte qu'avec le mobilier Empire, ces tableaux vont aussi très bien. Donc nous avons vu ce qui était un peu les pièces de réception du rez-de-chaussée. Si vous voulez, nous allons monter au premier étage. Et là, quand vous levez les yeux, vous apercevez dans l'escalier, il y a cinq tableaux absolument extraordinaires qui sont cinq nymphéas de Monet. Pourquoi les Monet sont dans le musée Marmottan ? Tout simplement parce que Michel Monet, un des deux fils de Claude Monet, enfin le seul qui était encore vivant, a légué au musée, à l'Académie des Beaux-Arts pour le musée Marmottan, l'ensemble des collections de son père qui était à Giverny. D'ailleurs, il y a maintenant une fondation Claude Monet à Giverny, où l'on voit ce magnifique jardin et dont le directeur est mon confrère Hugues Gall, qui était longtemps, enfin que tout le monde connaît bien sûr, qui était longtemps formidable directeur de l'Opéra de Paris. Donc il est maintenant, en plus de toutes ses tâches, il est directeur de la maison de Giverny. Et donc ces tableaux, vous voyez, il y a cinq nymphéas. Alors c'est assez amusant que... Il y a quelques semaines, un journaliste m'appelle pour me dire « Il y a un tableau de Monet qui s'est vendu 55 millions d'euros. Je suppose que vous n'en avez pas un comme ça. » Je dis « Non, je n'en ai pas un, j'en ai 17, à peu près de la même taille et du même prix. » Probablement, enfin, s'ils étaient mis en vente. Et là, vous en avez cinq extraordinaires dans cet escalier. Ils étaient dans les réserves auparavant et nous les avons mis là. Je les ai mis là à la place de tapisseries de Bruxelles qui étaient très intéressantes. Mais des tapisseries de Bruxelles, on en voit un peu partout, enfin, ou dans les musées, ou dans les palais, ou dans les ambassades. Avoir des monnaies comme de cette qualité-là, tous dans les mêmes teintes, enfin, c'est une affaire assez magnifique. Nous arrivons au premier étage. Alors au premier étage, ce qui vous frappe, c'est qu'il y a encore des pièces qui peuvent ressembler à des pièces d'habitation. C'était des pièces d'habitation, effectivement, du temps de Marmottan. On en a fait des pièces de musée. Alors là, nous exposons, non pas en permanence, mais un certain nombre d'œuvres de nos collections impressionnistes. Alors ça, bon, je vous l'ai dit, il y a Renoir, Monet, Sisley, Pissarro, Caillebotte, Renoir. Enfin, il y a énormément de choses. Et depuis l'année dernière, j'ai décidé de faire entrer un peu l'art contemporain dans ce musée. Et de mai à septembre, nous avons eu, nous venons de décrocher, une exposition de membres de l'Académie. Bon, il y avait des œuvres de sculptures d'Antoine Poncet, des œuvres d'Albert Ferrault, des peintures de Chou Tetchoun, des sculptures d'abeilles, des gravures de Granier. Bon, et ça a eu beaucoup de succès et je suis enchanté. Et nous comptons bien recommencer l'année prochaine puisque nous avons à l'Académie des Beaux-Arts une section de photographie qui a été ouverte il y a 2-3 ans. Et nous avons deux éminents photographes qui sont membres de cette académie et qui ont accepté, sous l'autorité bien sûr du secrétaire perpétuel et de la commission administrative, de participer à une exposition l'année prochaine de photographie. Donc il y aura en principe une exposition l'été contemporain pour Lucien Clerc et Yann Arthus Bertrand. Voilà, alors donc nous avons à peu près balayé tout le bâtiment de Marmottan. Et si nous continuons un peu, nous descendons, voilà, nous prenons, je fais un raccourci, nous descendons cet escalier qui est immense, qui est superbe, nous sommes dans le hall à nouveau, et nous passons à gauche et nous arrivons dans une galerie, qui était une galerie qui a été construite par Paul Marmottan, dans laquelle pour l'instant il y a des impressionnistes, et nous nous dirigeons doucement à gauche, vers une pièce tout à fait intime et très peu éclairée, mais vous comprendrez pourquoi. Parce que c'est une pièce qui renferme des enluminures du Moyen-Âge et de la fin du Moyen-Âge qui ont été offertes par Wildenstein, qui était la collection de Wildenstein d'enluminures. Et vous verrez, vous entrez, vous voyez, il y a des enluminures extraordinaires, très 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 rares, qui ont été donc offertes par les Wildenstein. Et il est certain que c'est un fonds inestimable. Alors, vous voyez, il y a de chaque côté des petites statues qu'on appelle les statues de Malines, qui sont aussi des choses merveilleuses, qui viennent du legs de Marmottan. Alors nous continuons peu à peu, nous allons sortir de cette petite pièce, mais qui est toute intime, et nous retrouvons la lumière pour descendre l'escalier. Et vous voyez, devant cet escalier, vous voyez un grand portrait de Monet. Et nous allons descendre dans une salle qui a été construite après le legs Monet. Et dans cette salle sont réunis uniquement des tableaux de Monet. Alors il y a à gauche, vous voyez, nous descendons l'escalier, à gauche, il y a le tableau le plus connu de Monet, probablement le plus connu de l'impressionnisme, qui s'appelle « Impression, soleil, levant », qui est le tableau qui a donné le nom à l'impressionnisme. Bon, ce tableau, c'est nous qui l'avons. Nous sommes heureux, c'est un emblème pour notre musée, puisqu'il figure dans notre logo. Mais il y a d'autres tableaux extraordinaires, comme la gare Saint-Lazare, une vue des cathédrales de Rouen, là, vous avez la Westminster Abbey à Londres. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de tableaux très, très, très connus. Et nous nous dirigeons doucement vers la période de Giverny, qui est la période maintenant la plus aimée, la plus, j'allais dire, parce qu'on vit dans une société marchande, la plus chère de Monet. Et vous voyez, on arrive dans cette rotonde où il y a énormément de tableaux, dits les nymphéas. Vous savez que Monet s'est installé à Giverny, donc il y a 25 ans. Moi, je ne suis pas le conservateur, donc les auditeurs me pardonneront si je ne suis pas extrêmement précis sur certaines données, mais ça, il peut avoir tout ça en venant voir le musée. Et il y a donc ces fameux nymphéas que Monet a peint à Giverny, sur cet étang aux nymphéas, avec le pont japonais qu'il avait fait construire, et qui sont en fait des, on ne peut pas dire des tableaux préparatoires, enfin, dont l'aboutissement est la grande rotonde des nymphéas du musée de l'Orangerie, qu'il a légué à l'État, je crois à la demande de Georges Clémenceau, qui était un grand ami de Monet. Bon, cette rotonde des nymphéas de l'Orangerie, nous la retrouvons un peu ici, avec beaucoup de tableaux extraordinaires. Vous voyez, là, il y a un escalier qui est, pour l'instant, sert d'escalier de secours, mais derrière, vous voyez, il y a des travaux. Bon, ça tape un peu partout, là. Mais si nous allons sentir un peu l'odeur de la peinture, nous montons et nous arrivons dans des salles qui vont être ouvertes à partir du 15 octobre. Et ces salles sont une réalisation qui a été permise par Antoine Bernheim, qui est un mécène généreux et qui est le président des assurances Generali. Bon, il est un mécène fastueux puisqu'il a aidé la restauration de Chantilly et la restauration des fresques du primatiste à Chaly. Il nous permet financièrement de réaliser cette salle dans laquelle nous entrons là, qui est une salle en sous-sol où on va exposer, ce qui n'a jamais été fait pour l'instant, les pastels, les dessins de Monet qui nécessitaient un éclairage très doux, enfin, et un éclairage complètement adapté par fibre optique. Et ceci dit, quand ce sera en place, on pourra enfin voir ces pastels, ces dessins, ces aquarelles telles que Monet les a peintes, avec une lumière normale. Et puis là, vous voyez un escalier, un grand escalier, qui amène dans la boutique. Et on retrouve cette boutique par laquelle nous avons commencé. Et se finit la visite de ce musée. Voilà. Donc je vous ai à peu près résumé. Mais maintenant, bien sûr, mon but est de faire que les auditeurs aient envie de venir voir ce musée. Alors, il faut quand même préciser que vous avez vu, il y a un grand piano dans la rotonde des nymphéas. C'est un de mes pianos de concert. Et je l'ai mis à disposition du musée pour que, à partir du mois prochain, tous les mois, le troisième mardi de chaque mois, il y aura un concert. Donc les quatre pendant l'exposition seront dédiés à Debussy, sa musique de piano, sa musique de chambre et bien sûr des mélodies de Debussy, peut-être pourquoi pas un peu de Forêt.
C'était donc Jacques Tadéhi de l'Académie des Beaux-Arts qui nous ouvrait les portes du musée Marmottan-Monet, un ancien pavillon de chasse acquis en 1882 par Jules Marmottan.